réflexion sur ces sujets économiques, notamment de la part des confesseurs, parce que les confesseurs avaient de plus en plus chez eux des marchands, d'une économie qui était en train de se développer très intensément, notamment en Italie. Et c'était au même moment que se développaient les ordres mendiants, c'est-à-dire franciscains et dominicains, dont le principe est qu'ils n'avaient pas de biens eux, mais ils ne vivaient pas dans des monastères séparés de la communauté, ils vivaient dans des couvents au milieu de la communauté. Et donc, dans ces villes italiennes qui étaient en plein boom économique, vous aviez en même temps ces personnes qui ne tenaient pas de biens, mais qui avaient devant eux des pénitents qui leur disaient, mais voilà, je suis marchand, je fais ceci ou cela, est-ce que c'est bien ou mal? Et donc, ils se sont mis à réfléchir sur ces questions-là et à développer les bases, en fait, de la science économique, mais encore une fois, toujours dans une préoccupation éthique. Alors, ça s'inscrit sur une base déjà de réflexion économique des pères de l'Église dans le premier millénaire, mais qui était beaucoup plus nettement moralisant, avec toujours un souci de base qui est le souci de la communauté. Le christianisme parle de pauvreté, mais il ne parle pas de pauvreté pour exalter la misère. Il parle de pauvreté pour exalter le non-attachement excessif à un certain nombre de biens et l'importance centrale du collectif. Alors, dans cette pensée et ce développement économique, un point tout à fait central est la notion du prix et du juste prix. Et la recherche du juste prix implique, dans l'optique que je décrivais tout à l'heure, de chercher à comprendre quel est le mécanisme des prix, c'est-à-dire comment les prix se forment. Le principe de base, qui est un principe moral, c'est je dois vendre un juste prix parce que je ne dois pas vendre plus cher que ça ne vaut et il n'y a pas de raison que j'achète plus cher que ça ne vaut. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas précisé tant qu'on ne sait pas exactement quelle est la valeur. Et donc, la question est de savoir par quel mécanisme de formation des prix on arrive à des prix que l'on peut considérer raisonnablement comme justes. Et ce qui est très intéressant, et on le voit déjà dans saint Thomas d'Aquin, qui est au début de cette réflexion, mais qui est en même temps la lance de toute son autorité, c'est que saint Thomas d'Aquin réfléchit sur l'ensemble des choses que doivent faire les gens qui participent à une transaction. Donc, dans ces transactions qui sont par construction des transactions libres, autrement dit, on est clairement dans une économie que nous dirions en un sens de marché, non pas au sens actuel où on fait du marché un absolu, mais au sens factuel où des gens ayant des propriétés privées utilisent leurs biens et leur argent en achetant ou en vendant d'une manière ou d'une autre. Donc, dans ces transactions libres, qu'est-ce que doit faire l'acheteur ou le vendeur? Par exemple, saint Thomas explique que l'acheteur ou le vendeur, concrètement, doit signaler, le vendeur plus exactement, doit signaler quand il y a un défaut manifeste, quand il y a un défaut qui n'est pas manifeste et qui n'est pas visible, mais pas nécessairement si raisonnablement l'acheteur pouvait savoir. Par exemple, il cite le cas où un marchand sait, dans un endroit où le prix du blé est très élevé, il sait que du blé va arriver d'une autre ville. Les gens ne le savent pas, donc le prix du blé est très élevé. Est-ce qu'il a le devoir d'aller dire que du blé va arriver et que le prix va baisser? Sa réponse à lui est de dire, c'est mieux s'il le fait, mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé parce que ce qu'il doit faire, c'est prendre le prix qu'il trouve en fonction de l'état de la communauté où il la trouve. C'est-à-dire que le prix se détermine dans une communauté donnée, et comme vous le voyez implicitement, il dépend évidemment des quantités, et il dépend du désir des gens. Dans le cas du blé, il s'agit de manger, donc le désir est fort, mais dans d'autres cas, le désir peut varier. Et il admet tout à fait que ce prix puisse varier en fonction de ces différents facteurs. Il admet par exemple aussi qu'il peut être licite de vendre plus cher un bien qu'on ne l'a payé. Ce qui est le cas de ce que font les marchands. Évidemment, ils vendent plus cher que ce qu'ils ont acheté. Alors que son maître Aristote le condamne, lui, il considère que ça peut être parfaitement légitime, ce métier de marchand, tout à fait honorable, si bien entendu le marchand le fait convenablement, c'est-à-dire cherche à rentrer dans le mécanisme des prix d'une manière honnête, et d'autre part, qu'il cherche à utiliser son profit pour une finalité estimable. c'est-à-dire qu'il fait son commerce parce qu'il sent qu'il y a un besoin et il veut satisfaire ce besoin, il veut nourrir sa famille, et ainsi de suite. Donc, on a bien une économie dans laquelle il y a interaction entre des personnes. Ces personnes interagissent ensemble, donc il s'agit bien d'un prix qui s'établit dans une communauté. Elles ont un souci du juste prix, en ce sens qu'elles ont un souci de justice, mais en même temps, ce prix va résulter de leur interaction. Et donc, on se trouve devant une économie et un raisonnement qui ressemble au nôtre, à ceci près qu'il y a ce souci éthique qui est constamment présent. Comment, à ce moment-là, ils expliquent la manière dont le prix s'est formé? Alors, il y a plusieurs théories en matière scolastique, mais qui retrouvent tout à fait des concepts d'économie politique actuelle. Il y a d'abord ce que dit saint Thomas, c'est le besoin humain, indigensiam en latin. C'est-à-dire, ce n'est pas une valeur intrinsèque. Par exemple, il dit, un rat est un être beaucoup plus complexe et élaboré qu'un grain de blé. Mais le rat vaut beaucoup moins que le grain de blé. Pourquoi? Parce que dans le besoin des hommes, le rat vaut rien. Au contraire, il est négatif. Tandis que le grain de blé leur apporte beaucoup. Donc, le besoin des hommes qui s'exprime dans leur intervention au niveau de la communauté est ce qui est la base du prix. Alors après, évidemment, il peut varier en fonction de différents facteurs subjectifs.
Oui, oui. Bonsoir.
Par la suite.
Merci.
Quand il n'y a pas de marché comme ça dans un processus collectif, là, ça devient plus difficile. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il doit y avoir un souci plus grand des acheteurs et des vendeurs pour essayer de retrouver quelque chose d'équilibré. Dans la mesure où il est toujours l'idée qu'ils font société, ils sont en société ensemble, et ils ont le devoir de ne pas se léser mutuellement dans un sens ou dans un autre. Donc, on se retrouve sur un prix qui ressemble à nos prix de marché, mais comme vous voyez, une différence tout à fait centrale, c'est que le mécanisme n'est pas purement et simplement d'individus qui font rigoureusement tout ce qu'ils veulent, et puis ce qui se trouve être le prix est le prix. Il s'agit de mécanismes, de personnages qui interagissent ensemble, mais qui le font parce que ce processus crée quelque chose qui est collectivement utile et bénéfique, c'est-à-dire un prix qui va assurer le meilleur résultat possible. Alors, ça n'a pas toujours été bien compris, parce que les gens comprennent que le juste prix, c'est quelque chose qui existe en soi, ce qui n'existe pas dans les textes de l'époque. D'autres pensent que c'est un prix d'autorité. Or, ce n'est pas un prix d'autorité, il n'y a pas d'autorité qui le détermine, qui intervient. Bien entendu, saint Thomas et ses successeurs envisagent des cas où il faut que l'autorité intervienne, mais parce qu'il y aura un motif. Par exemple, dans l'élaboration du juste prix, il est très important pour eux que les participants soient libres. Or, libre veut dire non seulement libre physiquement, il n'est pas contraint d'acheter ou de vendre, mais pas contraint aussi par l'intensité trop grande du besoin. C'est-à-dire qu'un prix qui est établi parce que quelqu'un, par exemple, crève de faim et accepte de payer n'importe quoi, n'est plus un juste prix, parce que la transaction à ce moment-là n'est pas représentative de la confrontation de volonté raisonnablement libre, mais de l'exploitation par l'un d'un besoin totalement fondamental de la part de l'autre. Donc, on est sur un processus de réflexion assez élaboré sur ce qu'est le prix et le juste prix. Et ce processus de réflexion est doublement intéressant pour nous, parce que non seulement c'est une étape très importante dans l'élaboration de la théorie du prix, qui est quand même tout à fait essentielle dans l'économie politique, mais aussi parce que c'est mélangé avec ce souci du résultat, ce souci de l'équité, qui aujourd'hui encore serait tout à fait pertinent dans beaucoup d'établissements de beaucoup de prix. Moi, je prends par exemple le cas de ce que j'ai vu dans le secteur bancaire. Les prix de la banque de détail sont souvent extrêmement arbitraires, c'est-à-dire n'ont pas de lien logique avec ni avec le coût, ni avec quoi que ce soit, mais sont établis unilatéralement et par des banques qui se copient dans une mesure non négligeable elles-mêmes, pas sur tout, mais sur un certain nombre de plans. À partir de ce moment-là, c'est clair, pour un médiéval, c'est du vol. Si vous faites payer quelque chose uniquement parce que vous faites, tous les producteurs font la même chose et s'entendent, de fait, vous imposez un prix qui est bien au-delà du prix qui s'établirait par un équilibre pur, vous avez d'une manière ou d'une autre du vol. Je tends personnellement à penser qu'ils auraient la même analyse s'agissant des produits de luxe. Il est normal qu'un produit de très grande qualité coûte plus cher parce que, par construction, il incorpore un savoir-faire et une rareté des matières, mais il n'est totalement anormal que ce supplément de prix ne soit lié qu'à une idée de marque, qui est en fait une idée subjective, un besoin subjectif artificiellement créé dans la tête des acheteurs. Donc, même en termes, je dirais, de référence normative, cette réflexion garde un sens tout à fait intéressant aujourd'hui. Et plus généralement, on a toute une réflexion sur l'argent qui est très complexe, du moins, plus exactement, très hétérogène. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une tradition chrétienne de condamnation de l'argent par son côté tentateur, et d'un autre côté, la nécessité de l'utiliser. Et la nécessité de l'utiliser est constamment soulignée. Pour le médiéval, le pire usage de l'argent, c'est de le thésauriser. L'avarice est le pire défaut qui existe, non seulement parce qu'elle corrompt l'avare, mais aussi parce qu'elle empêche l'argent de jouer son rôle, qui est un peu comme le sang, et de circuler. Autrement dit, la nécessité absolue, c'est que l'argent soit utilisé, l'argent circule et irrigue la communauté. Ce qui laisse entendre d'ailleurs une conception purement négative de l'argent. L'argent a un côté totalement ambigu ou biface. D'un côté, comme il est tentateur et qui résume toutes les tentations, puisqu'avec lui on peut acheter tout ce qui est vendable, il est dangereux. Et d'un autre côté, on en a besoin parce que c'est par lui qu'on fait vivre, et qu'on fait vivre la communauté notamment, y compris dans ce mécanisme qu'est le marché, et on retrouve la question du juste prix. Donc il ne s'agit pas de se retirer de la société en évitant l'usage de l'argent, même dans le cas des mendiants comme les franciscains par exemple, qui ont été parmi les franciscains et dominicains qui ont été les principaux auteurs de toutes ces réflexions, il est tout à fait essentiel que celui qui sort aide la communauté à utiliser cet argent de façon optimale. Et ce qui faisait que très souvent, les gens venaient demander un conseil ou même une gestion à ses frères, aux frères mendiants, parce que précisément, eux étaient complètement dégagés du désir et de la fascination de l'argent, et de ce fait, pouvaient ou le gérer mieux, ou plus souvent, mieux conseiller ce qui avait à l'utiliser. Et donc, des thèses ont été élaborées en soulignant ce rôle très important et paradoxal des franciscains dans le développement de la pensée économique, non seulement dans les aspects que j'ai dit, mais dans d'autres aspects, par exemple sur la fécondité du capital, qui est une question qui est tout à fait essentielle, dont on va parler à l'occasion du taux d'intérêt. Mais comme on voit, on est dans un monde qui est à la fois et très différent du nôtre par ce souci constamment éthique mis au milieu. Alors ça ne veut pas dire que dans la pratique les gens étaient éthiques, hein, comprenons-nous bien. Ça veut dire que dans le discours reçu et admis publiquement, cette référence se formulait de cette manière-là. Et donc cette exigence collective était celle-là. Alors, ce qui, en revanche, est assez décalé par rapport au premier abord à ce que nous pensons aujourd'hui, c'est évidemment la condamnation de l'intérêt. Alors, quand on dit condamnation de l'usure, il faut bien voir que l'usure, à l'époque, le mot latin usura était employé pour l'intérêt, en général. Ce n'est pas l'usure au sens actuel, qui est un intérêt très excessif. Là, c'est l'intérêt lui-même, c'est-à-dire que l'idée, qui s'est plutôt durcie dans la théorie, pas dans la pratique, mais dans la théorie, que quand on prête, on n'a pas le droit de demander un intérêt. Ça n'a jamais touché l'investissement en fonds propres. C'est-à-dire, l'investissement en fonds propres a toujours été considéré comme parfaitement licite et méritoire pour plusieurs raisons. L'une, c'est qu'il y a une prise de risque. L'autre, c'est que, disait-on, on ne perd pas la propriété puisqu'on échange la propriété de son argent contre la propriété d'une part dans une société. Je rappelle que la première société par action a été créée au XIIIe siècle, c'est les Grands Moulins du Bazac à Toulouse. Donc, les gens avaient des actions et ces actions leur rapportaient. Donc, première chose, ils ont toujours leur propriété. Deuxième chose, ils sont associés. Et donc, ça veut dire qu'ils réalisent une petite communauté et une petite communauté dans laquelle ils ont une certaine solidarité. Parce que si la société fait faillite, ils perdent tout ce qu'ils ont. Tandis que celui qui prête en termes formels, je ne parle pas prêter à son voisin, mais qui prête en termes formels, lui peut exiger le paiement de l'argent et éventuellement des intérêts à un tribunal. Donc il y a une absence de solidarité de ce côté-là. Mais les principaux arguments qui étaient donnés à l'époque avaient d'autres bases. Alors il y a un peu des arguments bibliques, bon, je vais passer très rapidement parce qu'ils sont faibles, mais surtout il y avait des raisonnements, et notamment l'idée que l'argent est consommé, et que par exemple si je prête un pain à quelqu'un et que le pain est consommé, il doit me rendre un pain, mais il n'y a aucune raison que je lui demande quelque chose en plus du pain que je lui ai prêté. Et on dit l'argent c'est pareil, l'argent est consommé, et donc on n'a pas le droit de demander plus. Avec l'idée sous-jacente, implicite, que cet argent ne fait pas de petit, c'est-à-dire que ce qu'il crée d'une manière ou d'une autre, d'abord c'est dû évidemment à dernière analyse, mais de façon pratique, c'est l'industrie humaine. Donc c'est en un sens le travail, l'initiative, etc. Et ce n'est pas l'argent lui-même. Alors, c'est partiellement contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le capital, parce qu'on voyait bien que si des gens s'associaient en capital, c'est bien que ce capital apportait quelque chose à l'entrepreneur. Autrement dit, que l'entrepreneur pouvait faire plus de choses avec le capital que sans. Et ça peut être fait sous la forme, évidemment, de l'apport en capital, mais on pourrait imaginer que ça puisse se faire par un prêteur. Mais ces idées étaient combattues déjà par Saint Thomas et par beaucoup d'autres. Alors, comme par ailleurs, évidemment, ça se développait sur la place économique et qu'il ne pouvait pas le nier, on a repris tout un ensemble de théories, y compris tirées du droit romain, pour essayer de rendre compte des cas où une forme d'intérêt pouvait avoir un sens. Donc, l'exception la plus connue, c'était le lucrum cessans, c'est-à-dire le gain qui s'arrête. Alors, je suis un commerçant, j'utilise mon argent pour faire vivre mon commerce, j'en soustrais une partie pour la prêter à quelqu'un. Dans ce cas, évidemment, j'ai une réduction de mon profit. Et à ce moment-là, on considère légitime qu'on soit compensé pour la réduction de ce profit. Alors, comme vous voyez, dans une économie beaucoup plus développée comme la nôtre, le lucrum cessans, c'est quasiment permanent, puisqu'à tout moment, on pouvait utiliser votre argent pour gagner d'une manière ou d'une autre. Si vous pouviez l'utiliser, par exemple, pour avoir des parts dans une société immobilière qui perçoit des loyers, et ce loyer immobilier vous rapporte un loyer de votre argent d'une manière ou d'une autre. Et donc, comme le loyer immobilier était reconnu, lui, légitime, puisqu'on pouvait distinguer le bien qui est l'immeuble de l'usage du bien, on considérait que de ce fait, le loyer étant légitime, évidemment, une part dans une société immobilière, à ce moment-là, pouvait l'être aussi. Et donc, à ce moment-là, on commençait à rentrer dans des schémas où on ressemble beaucoup au prêt à intérêt. Mais il y a eu ce débat qui a duré très, très, très longtemps. Donc, je vais passer rapidement parce que c'est moins au centre de notre réflexion. Et ce qui est très important, c'est d'essayer de voir, à côté de ce qui, de mon point de vue, est une erreur économique, de voir la justesse du souci moral. C'est-à-dire que le souci qui est latent, c'est de dire: ne croyez jamais que l'argent par lui-même fait des petits. Autrement dit, l'argent n'est productif que dans la communauté et en association. Et donc, il faut que d'une manière ou d'une autre, cette dimension existe. Cette dimension va évidemment, cette exigence morale va évidemment dépendre de votre position dans la société, mais il est toujours important de se rappeler que l'argent ne fait pas de l'argent par lui tout seul. Alors, comme vous le voyez, c'est une idée qui garde toute sa pertinence aujourd'hui. C'est-à-dire que celui qui va investir son argent, quel que soit le moyen, en prêtant ou en investissant en capital ou en fonds propres, ne peut pas considérer que l'argent a créé par lui tout seul le produit qu'il en retire. L'argent l'a créé parce qu'il s'est inséré dans un jeu collectif, où il y a un rôle tout à fait essentiel du travail, soit au sens traditionnel du travail ouvrier, je dirais, mais aussi le travail intellectuel et bien entendu le travail au sens plus large, industrie, le travail de l'entrepreneur. Sans l'entrepreneur, sans le travail intellectuel et sans les ouvriers, l'argent ne fait rien, il est complètement inerte. Et donc, il y a cette notion qui va après s'être développée dans la doctrine sociale de l'Église, et je crois que vous avez eu un exposé là-dessus, qui est celle que la propriété existe pleinement, c'est-à-dire que le propriétaire décide ce qu'il fait de son bien, mais c'est soumis à ce qu'on appelle la destination universelle des biens, c'est-à-dire qu'il doit l'utiliser dans un sens qui va au service du bien commun. Et donc vous voyez comment la condamnation du premier intérêt peut intervenir dans ce genre de contexte. Si vous êtes convaincu que l'argent n'a pas une fonction créatrice considérable et que vous considérez que vous avez le droit, sans prendre de risque, sauf le risque de faillite ultime du débiteur, mais d'aller devant un tribunal réclamer le remboursement et en plus de réclamer un intérêt, il est compréhensible que pour les gens raisonnant dans le contexte de l'époque, c'est pu apparaître discutable. Nous savons, je pense, mieux aujourd'hui que comme l'argent peut toujours être utilisé d'une manière qui, associée au travail ou à l'initiative, est fécond, il est normal qu'il y ait une certaine rémunération, mais à condition de réinsérer cette rémunération dans le contexte du jeu social. Donc, vous avez, sur toute cette période du Moyen-Âge et de la Renaissance, puisque ça va jusqu'au XVIIe siècle, notamment en Italie et en Espagne, alors la dernière phase, c'est la dernière scolastique est une scolastique espagnole. Alors, de même que vous aviez à Salamanque des docteurs comme des docteurs qui défendaient les droits des Indiens en tant qu'êtres humains face à leur mise en esclavage, vous aviez des docteurs qui développaient encore plus ces conceptions économiques scolastiques. Et c'est ce corpus-là qui va être passé ensuite au XVIIe ou au XVIIIe, à des auteurs qui d'abord sont protestants et puis ensuite plus très croyants et qui débouchera sur l'économie politique. Et donc, la question se pose à ce moment-là, et c'est là où on trouve sur le chapitre du capitalisme et du rôle que peut avoir catholicisme, protestantisme, etc. Et vous avez la fameuse thèse de Weber que tout le monde se rappelle, qui est de dire le capitalisme est né du protestantisme, ou plus exactement d'une variante de protestantisme qu'est le calvinisme, et même plus particulièrement de la forme qu'il a prise en Angleterre et en Écosse au XVIIe siècle, c'est-à-dire les puritains. C'est une thèse qui est très intéressante par la première idée et intuition qui est tout à fait juste de Weber, c'est de dire l'invention de nouvelles pratiques collective, et y compris en matière économique comme le capitalisme, et le fait de gens qui ont des convictions, des croyances, une préparation mentale qui les oriente dans un certain sens et qui affecte la vie économique de manière très significative. Et il a reconnu le rôle tout à fait central de la religion dans ce rôle-là. Là où c'est beaucoup plus contestable, c'est le mécanisme qu'il décrit pour essayer d'expliquer le rôle qu'il attribue aux puritains, c'est-à-dire l'idée que ces gens ne réalisent pas leur salut, pensez en bon protestant qu'ils ne réalisent pas leur salut par les œuvres au sens religieux du terme, le choix est fait de toute éternité. Mais à ce moment-là, il y a une question en pratique de vérification du salut en exécutant ce que l'on a à faire et que ça s'appliquerait dans la vie économique et qu'en étant actif économique, il montre qu'il est un élu. Et Dieu le récompense d'ailleurs, puisqu'il réussit et il gagne de l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'il recherchait nécessairement en lui-même, mais c'est la preuve qu'il est élu, puisque en ayant développé son activité et son industrie, ça a obtenu un résultat. Et donc ça aurait débouché sur l'exaltation du travail, de l'épargne, la diminution des consommations superflues, etc. Je vais passer assez rapidement sur la critique de cette conception, qui n'est pas du tout évidente pour une série de raisons. La première, c'est que le capitalisme n'est pas né chez les puritains. Le capitalisme, si on entend par là un capitalisme de type financier, il est né en Italie chez les catholiques au XIIIe siècle. Tout le vocabulaire de départ de la banque et finance, a commencé par les mots banque et finance, intérêt, agio, etc., sont des mots italiens. Donc le capitalisme financier, c'est-à-dire au sens du capital et de gens qui font fructifier de l'argent, il est né en Italie. Quant au capitalisme plus moderne que nous connaissons depuis la révolution industrielle, il est né après les puritains, du moins après la grande période des puritains. Il est né dans une Angleterre de la fin du XVIIIe siècle qui avait connu entre-temps la forme particulière des Lumières qu'ont eu en Angleterre et un degré important de sécularisation, moins radical qu'en France, mais quand même très très réel dans la pratique. combiné, bien entendu, avec la révolution industrielle elle-même, c'est-à-dire l'utilisation de l'ensemble de technologies et progressivement de données scientifiques pour organiser ce qu'on appelle production industrielle, écoulement industriel, etc. Mais donc ça s'est fait dans un monde qui n'est pas du tout le même. Deuxièmement, les textes de l'époque des puritains ne les montrent pas obsédés à gagner de l'argent. Ils sont obsédés par une règle de vie relativement austère et qui ne se traduit pas par une thésaurisation malade ou par une obsession. Non, ils étaient convaincus de leur salut, ils étaient convaincus de toute façon qu'ils étaient des élus et simplement ils agissaient d'une manière, je dirais, modérée et régulière, alors qui peut aider en matière économique. Mais ce qui fait le succès économique, et surtout qu'on verra après dans la révolution industrielle, c'est pas parce que le capitaliste thésaurise et épargne chaque sou, contrairement à ce que dit Franklin, mais c'est parce que le capitaliste a des idées créatives et qu'il les développe en mettant en œuvre des technologies, et il faut bien dire à l'époque, en exploitant assez honteusement des masses ouvrières, enfin des masses à l'origine paysannes, et qu'il transforme en masses ouvrières avec des salaires extrêmement faibles. Et en utilisant le fait qu'il y avait une classe moyenne non négligeable qui, elle, était en capacité d'acheter les biens qu'il pouvait produire. Donc, le mécanisme est quand même assez différent que celui que décrit Weber. On constate d'ailleurs que l'Église anglicane, qui est quand même l'Église officielle, encore pendant le XVIIe siècle, défendait des conceptions en matière économique assez proches de son héritage catholique médiéval, notamment dans le souci des pauvres. Et c'est que progressivement que la sécularisation aboutira à rationaliser une indifférence totale par rapport aux pauvres. Et ensuite, le partage des biens communaux au profit des grands propriétaires, c'est-à-dire une spoliation très généralisée des pauvres en Angleterre qui ne s'est pas produite dans les pays catholiques à ce moment-là. Elle a pu se produire après, mais autrement. Et donc, la thèse de Weber sur ce plan-là est assez controuvée. Elle a pu être populaire parce qu'il y a cette intuition très juste du rôle de la religion, et j'y reviendrai tout à l'heure, et parce qu'on pouvait constater au XIXe siècle qu'il y avait plutôt plus de développement économique dans les pays protestants, en tout cas dans les pays calvinistes au départ, ensuite dans les pays luthériens, mais bien après, que dans les pays d'Europe du Sud, Italie et Espagne. Mais il faut bien voir que parmi les premiers pays qui se sont développés économiquement avec l'Angleterre, il y a la Belgique, qui était purement très très catholique à l'époque, et même la France, si vous regardez la fin du XVIIIe siècle, on n'est pas du tout sur le rythme anglais, mais on est sur indéniablement une créativité économique, technologique, etc., qui montre que le contexte catholique, peut-être un peu moins favorable, mais on peut toujours l'affirmer, mais n'est pas contradictoire. Donc, cette thèse sur ce plan-là n'est probablement pas exacte. En revanche, la question qui se pose, c'est dans ce décollage industriel de la fin du XVIIIe siècle, quel est le rôle de la sécularisation ? C'est-à-dire, pas nécessairement de la disparition de la croyance religieuse, ça sera l'effet de la fin du XXe siècle, etc. Ça commence à l'époque, mais surtout de la mise à l'écart. Alors là, on peut établir un certain lien avec le puritanisme, dans la mesure où le puritanisme découple complètement le salut de ce qu'on fait. On est élu, c'est réglé, ça se vérifie par les actes que l'on pose, mais fondamentalement, ce n'est pas ça qui sauve. Et de ce fait, il se crée une conception de la société civile, économique, politique, qui est une société qui n'est moins irriguée par le souci de la morale, du bien, de la communauté, qu'elle ne l'était avant. Et c'est ce qui préparera progressivement l'évolution de l'économie politique qui, alors c'est notre chapitre suivant avec Adam Smith, va progressivement s'éloigner de ses origines éthiques. Adam Smith est très intéressant parce qu'Adam Smith est une charnière. Adam Smith a écrit un texte, un premier livre majeur qu'on connaît moins que La richesse des nations, The Wealth of Nations, mais qui joue un rôle tout à fait essentiel pour qu'on comprenne son point de vue, où il développe toute une analyse des motivations de l'être humain et en même temps du souci éthique qui doit l'habiter. Donc il y a un côté, si j'ose dire, Janus, il y a un côté chez lui qui regarde le passé et qui continue à voir l'économie avec une dimension éthique non négligeable. Et ensuite, bien entendu, il y a ce qu'on lit dans la Richesse des Nations, notamment en le sortant du contexte, vous savez, la fameuse explication selon laquelle si le boulanger me fait du pain et fait du bon pain, ce n'est pas pour me faire du bien, c'est parce qu'il me le vendra et moi je le payerai, et de ce fait, il assure sa vie, éventuellement il s'enrichit. Donc l'idée que, sinon l'avidité carrément, en tout cas un souci purement matériel, est le moteur principal de la prospérité. L'idée que si on veut rendre justice à un juif, doit être intégré dans son cas à lui, dans sa conception plus globale. Il appelle la main invisible à, par certains côtés, des traits qui ressemblent encore à la providence. Donc ce n'est pas purement un mécanisme. Mais en revanche, ce qui est tout à fait vrai, c'est que l'économie politique, ensuite, elle va aller totalement dans le sens de la séparation. C'est-à-dire que progressivement, l'idée de base est de dire « je regarde les mécanismes économiques en regardant le jeu des priorités qu'il y a chez les personnes, leur comportement purement économique au sens matériel, c'est-à-dire ils achètent, ils vendent, je ne regarde pas quelle est la motivation ultime derrière, je regarde leurs priorités et je regarde comment ça a été réagi. Et si je veux optimiser au sens économique, ça ne va pas être pour rendre meilleur, optimal, au sens moral, mais ça va être pour faire en sorte que le mécanisme marche le plus possible dans la logique de ce mécanisme. Et c'est une tendance qui va être croissante, accompagnant bien entendu le détachement progressif de la religion, de la société, mais qui est beaucoup plus marqué dans la science économique qu'il ne l'est dans le reste de la société. Une phase ultime particulièrement connue et visible, c'est la remontée du rôle de l'actionnaire et de l'idée développée notamment par Friedman à Chicago, selon lequel la seule chose que doit avoir en tête un actionnaire, donc un capitaliste, c'est la maximisation de son profit, et c'est la règle qu'il doit donner à ceux à qui il confie l'entreprise, c'est-à-dire aux dirigeants. Donc les dirigeants doivent maximiser le résultat, le profit, point à la ligne. Et que c'est comme ça que ça agira au mieux pour la société. Idée qui est, comme vous le voyez, en contradiction totale avec l'enseignement historique des penseurs chrétiens, mais qui maintenant l'est avec des courants beaucoup plus nombreux et importants qui reconnaissent que la fonction de l'entreprise est plus large, d'une part, donc il y a d'autres soucis à avoir, mais d'autre part, que le fait de ne se préoccuper que de la maximisation du profit n'aboutit pas à un résultat collectivement optimal. Il aboutit à un résultat qui est moins beau que si, en plus, on se soucie d'avoir d'autres buts qui sont plus moraux ou éthiques et qui le sont dans un sens communautaire. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on a eu un développement économique qui est né dans des pays au départ totalement chrétiens, alors, ça ne veut pas dire des bons chrétiens, mais je reviens toujours sur cette idée, mais imprégné de cette pensée-là, qui ne pouvait pas récuser publiquement au moins cette dimension éthique, morale ou communautaire, qui a eu une phase de détachement au moment de la révolution industrielle, au moins dans les comportements, et qui ensuite a accentué ce divorce. Et maintenant, on a une phase intéressante où on voit une remontée, un peu anarchique, il est vrai, une certaine remontée du souci éthique, ce qui veut dire d'ailleurs que cette pensée continue à garder toute sa pertinence. Alors, allez, pour revenir donc sur Weber et un peu synthétiser cet ensemble, ma conviction, c'est que l'intuition de Weber est vraie sur un point, c'est l'importance de la dimension religieuse, et pour faire très rapidement, on pourra élaborer, si vous voulez, je regarde l'heure qui tourne, et comme on est en zoom, je ne voudrais pas être trop long, je pense que ce n'est pas le protestantisme en particulier qui a joué un rôle central, mais le christianisme. Le christianisme est la seule religion qui, dans ses textes fondateurs et notamment les évangiles, parle énormément d'économie, en parle toujours dans une perspective évidemment morale et spirituelle, mais qui décortique dès les évangiles les mécanismes économiques. Il a continué à le faire au Moyen-Âge dans un contexte éthique qui qui a développé des idées qui n'étaient absolument pas des idées romaines, comme par exemple la dignité du travail. Quand vous voyez qu'un Saint-Benoît fondant ce qui deviendra l'ordre bénédictin ensuite, et donc tout le monachisme occidental qui jouera un rôle tout à fait considérable dans la reprise économique au XIe siècle, pour Saint-Benoît, c'est « ora et labora », c'est-à-dire « prie et travaille ». Et le travail est tout à fait essentiel. Déjà, Saint-Paul expliquait il faut gagner sa vie, il ne faut pas vivre de la mendicité. Et d'ailleurs, moi, Saint-Paul, je travaille, il fabriquait des temples. Bon. Donc, le travail a cette dignité. Et ce qui est intéressant dans le cas de Saint-Benoît est un vieux romain. C'est quelqu'un qui avait été éduqué dans la culture romaine. Mais dans la culture romaine, ce n'est pas du tout ça. Dans la culture du romaine, le travail, c'est une activité ennuyeuse pour les esclaves. Vous pouvez avoir une activité, mais l'activité noble, c'est l'activité de l'être libre qui, sans perspective économique, de son côté, se cultive, et à ce moment-là, il va écrire, etc., ou il va faire des œuvres d'art, mais il le fait indépendamment de ce qu'on appelle à proprement parler travail, qui lui est inséré dans l'activité économique. Et là, vous retrouvez cette idée que c'est non seulement le travail lui-même qui est ennoblissant, mais aussi le fait que le travail est un instrument majeur d'insertion dans la communauté et de vie dans la communauté. Et donc, je pense que cette conception-là du christianisme, ajoutée par son côté rationalisant, par le fait qu'il a contribué à désacraliser la vision de la nature, qu'il a joué un rôle positif dans le développement de la mentalité scientifique, qui fait que ça a créé un cadre mental favorable à l'activité matérielle et y compris l'activité économique. Il est très important de voir que le Moyen-Âge a été une période d'innovation technologique très intense, avec cette différence, d'autres civilisations l'ont eu, mais si je prends une autre civilisation majeure comme la Chine, dont l'économie était tout à fait remarquable, mais en Chine, la règle, c'était la stabilité sociale. Donc, par exemple, quand ils ont inventé l'horloge, ils l'ont réservée à l'administration. Quand ils ont inventé la poudre, ils ont vu que c'était dangereux, ce qui était d'ailleurs assez bien vu, et donc ils l'ont interdite, en fait. Et donc, il n'y a pas eu utilisation de la poudre noire. En Occident, il y a eu utilisation immédiate, parce qu'il n'y avait pas d'inhibition. Donc, comme vous voyez, cet apport du christianisme est lui-même potentiellement ambigu. C'est comme un don fait par Dieu qui apporte quelque chose, un talent, et le talent peut être mal utilisé. Et c'est probablement en partie ce qui s'est produit de façon croissante, notamment à partir de la révolution industrielle, où vous avez eu simultanément un accroissement de la richesse collective et en même temps un effondrement du niveau de vie populaire. Le niveau de vie populaire anglais était massivement meilleur au XIVe ou au XVe siècle qu'il ne l'a été au début du XIXe siècle. Alors, il a rattrapé progressivement parce que d'autres mécanismes, heureusement, se sont mis en mouvement, et notamment à la fois des penseurs chrétiens, mais aussi socialistes, mais aussi tout simplement les revendications, l'action des personnes concernées, qui ont fait que les salaires sont remontés, sont arrivés progressivement vers l'État social-démocrate et donc vers de tout autre horizon. Mais il y a eu effectivement toute cette période d'utilisation, comment dire, d'une libération par rapport à des inhibitions diverses et variées, qui peut être d'origine chrétienne, qui à mon avis est issue du christianisme, mais qui est évidemment du christianisme au sens perverti et mal utilisé. Et donc, il est clair que ça veut dire que, en permanence, face à des talents, à des données, à des capacités, le mode de pensée chrétien évite deux écueils. Il évite l'écueil consistant à dire « non, je refuse cette innovation parce qu'elle va déséquilibrer la société », réflexe à la chinoise, qui est très compréhensible, qui n'est pas du tout stupide, mais qui, évidemment, pratiquée systématiquement, entraîne une relative stagnation. Première erreur. Et la deuxième erreur, « ah, mais c'est une innovation technologique, c'est forcément bon, allons-y, et après, la société trouvera son équilibre tout seul. » Et donc, il y a une dimension dans le christianisme qui peut favoriser et qui a favorisé, à mon avis, le développement économique, et il y a même évidemment une possibilité de contrepoison. La limite, évidemment, de ce que je dis là, c'est que ça suppose une compréhension, une intériorisation de ces idées qui n'est pas nécessairement le fait du gros des gens, et donc ça peut partir dans des directions assez variées. Mais il est important de voir cet arrière-plan parce que ça veut dire que notre société ne serait pas ce qu'elle est sans le christianisme, et en même temps, c'est considérablement éloigné sur ces plans-là d'un certain nombre de choses qu'il réclame et qu'il exige. Et vous le voyez dès l'analyse donc, de la scolastique médiévale et encore aujourd'hui, bien entendu, dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église que je crois que vous avez examiné dans une autre conférence. Donc, je vous propose maintenant d'aller très vite vers une conclusion, c'est-à-dire qui est la question aujourd'hui, certes de réfléchir sur ce passé pour s'en enrichir et voir, comment dire, les marges de liberté mentale qu'il peut nous donner, mais d'autre part, ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, je prends par exemple un exemple tout à fait urgent, qui est la finance éthique. Il se développe de façon croissante un souci de finance éthique, c'est-à-dire j'investis mon argent pas simplement pour avoir un résultat financier maximal, mais aussi pour qu'il soit utilisé d'une manière qui aille, entre guillemets, dans le sens du bien. Alors, c'est notamment, par exemple, le souci de ce qu'on appelle l'ESG, c'est-à-dire environnement social et gouvernance, qui est patronné par l'ONU, où vous trouvez aujourd'hui beaucoup de fonds qui pratiquent ou prétendent pratiquer ce genre de soucis, c'est-à-dire qui enrichissent la vision. Ce qui, bien entendu, est dans son principe totalement cohérent avec le genre de préoccupation dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Après, bien entendu, il y a toute la question pratique, c'est-à-dire, je prends simplement le E d'environnement, vous pouvez avoir des conceptions assez différentes sur ce qui est prioritaire, ce qui n'est pas, le degré de menace ou pas, et ensuite les voies à emprunter. Il y en a un qui va être partisan du nucléaire parce qu'il va dire c'est une étape importante, et il y en a un autre qui va être contre en disant mais on n'y pensait pas, vous avez des résidus qui resteront dans les siècles. Autrement dit, le souci éthique ne donne pas la réponse nécessairement cas par cas. En revanche, si vous n'avez pas le souci éthique, là évidemment vous risquez, dans le cas par exemple de l'environnement, d'aboutir à la pire situation qui soit. Donc c'est un des domaines où il me paraît assez évident que cette préoccupation existe. Mais comme on le voit déjà dans la scolastique, déjà dès le Moyen-Âge, ça suppose en même temps une réflexion sur la réalité. En évitant le tic de ceux qui ont un souci éthique et qui ne passent pas par l'étape de l'analyse, le tic consistant à parachuter des jugements moraux sur des situations. Or, le véritable bien est obtenu par une connaissance la plus compétente techniquement de la situation. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut prononcer un jugement en disant « Ah oui, ça c'est bien et ça c'est moins bien. » Donc voilà, je vais peut-être m'interrompre maintenant si vous en êtes d'accord, parce que ça doit faire à peu près un peu plus de trois quarts d'heure, et il me paraît déjà beaucoup pour Zoom, donc merci de votre patience que j'imagine, puisque là je n'ai pas l'image, hein, mais que j'imagine. Et en tout cas, on va pouvoir passer aux questions, peut-être en utilisant le téléphone pour que j'entende les questions sans avoir à trouver un autre moyen plus compliqué.